Ce qui prouve que d'ailleurs que le conformisme social est en vous, me faisait penser que le compte d'auteur ne correspondait pas à quelqu'un de ma valeur, si vous voulez, de ma valeur comme écrivain, quoi. Et c'était ridicule. Alors, cette réflexion sur la liberté m'a débarrassé de ce préjugé, et je me suis dit, c'est tellement fondamental pour moi, et sans doute pour d'autres, que je l'ai publié à compte d'auteur, je l'ai fait imprimer chez Marin Poil. Je me suis aperçu d'ailleurs que les typos le lisaient parfois,
oui,
qu'ils avaient une opinion, parce que je crois qu'un des traits de mon expression, de mon style, est d'être lisible finalement par n'importe qui, et pas seulement par des intellectuels.
Est-ce que Henri... Pardon, Henriette, allez-y.
Non, je dis là, nous arrivons aux années 80, c'est-à-dire
oui, il y a eu... Oui, parce qu'en réalité, Je fus a une longue, très longue histoire, voilà. Ce livre. Voilà. La première version a été terminée quand
C'était au moment où Serin venait t'aider à... Tu sais, on a un exemplaire avec des traits rouges, des références.
Oui, oui, parce que Serin avait aidé à le mettre en
oui.
place.
Ah, oui,
voilà.
Jean-Louis
et Serin. ça devait être... dans les années après-guerre, du temps où il venait à Pau faire des cours, je sais, moi je ne sais plus.
Dans les années 50.
Ouais.
Et est-ce qu'Henriette corrigeait aussi, lisait, c'était votre première lectrice
oui, ça, Henriette.
Non, mais à ce moment-là, c'est surtout après que j'ai beaucoup.
Oui. Mais je t'ai lu, c'est sûr.
Des passages.
Oui, mais si tu veux, ce n'était pas systématique comme par la suite. Par la suite, vraiment, on a travaillé ensemble. Tandis que je me rappelle très bien Serin, de longues séances
avec Jean-Louis. Ouais.
De travail pour le plan, pour corriger les corrections,
voilà.
L'enchaînement des chapitres.
Je citerai Jean-Louis, d'ailleurs, comme une de ces personnes
oui.
qui m'ont longtemps suivi et qui, à un moment donné, effrayé par le point d'interrogation que ça posait devant ce qu'il faut bien appeler son conformisme universitaire,
voilà.
quoi. A fait brusquement de but.
Oui, enfin, il a disparu pendant...
Il a disparu pendant
des années.
Je l'ai revu dernièrement.
Oui.
Le mois de juillet.
Comment l'avez-vous rencontré?
Alors c'est autre chose. C'est une bonne question parce que, après l'abandon de mes camps, j'ai accepté aux réunions d'étudiants que patronnaient les réunions d'étudiants qui avaient, à mon avis, une nature très différente des camps que j'avais mis sur pied, parce que ça ne pouvait pas être en rapport d'égalité entre de jeunes étudiants et le professeur prestigieux qui était
Lul ou Serin plus tard. Oui.
Et alors, il imposait, si vous voulez, son prestige de prof, mais je faisais tandem avec lui, alors ce qui explique en particulier le rôle que j'ai continué de jouer auprès de mon ami Maurice Cerizet, par exemple, longtemps auprès de Jean-Louis Serin. Mais alors, pour les autres étudiants, visiblement, c'était il y avait un petit côté, je ne dirais même pas disciple, mais obligation d'assister aux réunions du professeur. En plus, ça donnait une petite touche de non-conformisme par rapport aux autres profs qui étaient visiblement parfois plus,
conventionnels.
Il faut bien dire le mot, des médiocres.
Ouais,
quoi.
Ouais. Ça se passait où
Alors, il y avait deux sortes de réunions, des week-ends. Qui se passait notamment, je me rappelle, c'était au château Rabat, je crois.
Oui, oui.
Et
à
puis,
Talence.
De l'autre côté de la Garonne, dans une vieille maison appartenant à une famille protestante, je ne me rappelle plus le nom. Enfin,
chez Cressman.
Chez les Montméjean.
Chez Cressman à Martillat.
Oui.
Voilà. Ce qui nous donnait l'occasion de boire une bonne
bouteille. Une bonne bouteille.
Surtout quand Cressman se trompait et allait prendre les doigts une bouteille là où il ne fallait pas, c'est-à-dire dans la réserve secrète de la famille.
Ça, on s'en souvient.
On s'en souvient un jour. Enfin, vraiment vénérable et remarquable. Mais c'est. il voulait bien offrir Château Martillac, mais pas aller jusqu'au secret de famille.
Les camps d'été se passaient dans les Landes.
Ah, les camps d'été se passaient dans les Landes.
Dans les Landes. Et de quelle année à quelle année environ?
Ah ben voilà, alors je l'ai marqué, mais je l'ai
essayons de revenir en arrière. Donc, à la Libération, vous organisez deux camps, voilà, trois, ouais, avec des pères, au fond.
Ouais. Oui.
Et voilà, puis, ça s'arrête.
Voilà.
Ouais. Et ensuite...
Plusieurs années.
Ça s'arrête pendant plusieurs années. Ouais. Là, il y a une période d'arrêt.
Oui.
Ouais. Et si je comprends bien, ça ensuite, vous redémarrez...
Vers 5 ans.
...sur une base différente, oui, au fond, avec plutôt un public que père.
Oui, il y avait les deux.
C'était un peu mélangé.
Oui.
Mon père y allait, par exemple.
Hein?
Mon père y assistait.
Oui, ouais.
Ton père y assistait.
Or, lui, il n'était pas là à titre d'étudiant.
Plus les étudiants des Lules.
Donc, ouais, plus les étudiants des Lules.
Le gros paquet, c'était les étudiants des Lules. On avait passé de
la Suderie du Chêne.
Notable.
Deschamps.
Deschamps.
Alors, l'inénarrable Deschamps, futur recteur des Pyrénées-Atlantiques, d'autres garçons qui d'ailleurs pouvaient avoir des côtés sympathiques, mais qui ne s'engageaient. Si vous voulez, la différence avec Ellul, c'est que pour moi, c'était une vocation à la fois personnelle et de portée générale.
Oui. Oui.
Pour moi, ce n'était qu'un passage. Et d'ailleurs, cette série s'est terminée, finalement, après une scène, même je qualirais violente, parce que je voulais que tout ça accouche, que ces discussions ne restent pas des discussions mondaines, que mon rêve, c'était, si vous voulez, de créer une sorte d'école de Bordeaux qui aurait posé le problème écologique avant tout autre, vous vous rendez compte, on aurait pu faire de Bordeaux une célébrité internationale, mais je dois dire que personne ne m'a compris ni suivi, d'autant plus que ça demandait des engagements de temps, d'argent, si on voulait avoir une publication, et on n'a pas trouvé, je crois que ça a été très important,
L'homme d'action.
L'homme d'action qui aurait eu un des talents d'organisateur.
Ni Ellul, ni toi.
Ni Ellul, ni moi. Nous étions Ellul, c'était un intellectuel, moi un homme de réflexion, de méditation et de réflexion, mais un mauvais organisateur.
Déjà, dans ces groupes, oui.
Donc ces groupes, nouvelle série au fond, ont eu lieu de quelle année à quelle année?
Voilà. Et voilà, je l'ai noté quelque part, mais...
Des années 55, 50 à 55?
C'est, à mon avis, c'est dans la décade 50-60.
Voilà. D'accord.
En gros, c'est ça.
Il y a une date très précise, c'est le démarrage de mes publications chez De Noël, c'est-à-dire 62.
Ah oui, d'accord.
Donc, je fus auparavant, ça a duré 7 ou 8 ans.
Oui, la gestation.
Ouais. Ce qui est puissant dans les idées de Je fus et qui a dû peut-être effrayer des étudiants ou des professeurs institutionnalisés dans des académies, c'est l'éthique de la liberté qu'il contient. Parce que c'est un ouvrage sur la liberté personnelle, individuelle, donc pas sur la politique ni l'adaptation à la société. Bon, vous l'avez fait, c'est quand même peut-être paradoxal. Après Hiroshima, est-ce qu'on peut dire encore « je suis libre » ? Et est-ce que c'était recevable, ce type de réflexion puissante, par des jeunes qui cherchaient à s'intégrer dans la société moderne des années 50-60, américanisée, ou alors qui cherchaient une carrière?
C'est précisément dans la mesure où après Hiroshima, la société occidentale semble entraînée dans une sorte de torrent irréversible que le devoir de défendre une cause qui pourrait sembler perdue au départ devient absolu, si vous voulez. Je crois que ce qui est très important dans ma pensée, si vous voulez, c'est que toute pensée est prise de conscience d'une contradiction où il faut opérer des choix et qu'à l'origine, par nature, une pensée spirituellement inspirée est forcément, on peut dire, impalpable par rapport à la réalité qui vous entoure de toutes parts. Et elle ne peut prendre naissance, alors là je reviens tout à fait à Jeffu, que dans la pensée d'un homme.
D'accord.
Si vous voulez, la conscience collective me paraît une contradiction de fond. Il n'y a pas de conscience collective, il n'y a qu'une conscience vécue dans l'instant, lumineuse, brûlante, que dans une tête individuelle.
Et dit autrement, les groupes de jeunes étudiants que vous aviez contactés par l'intermédiaire d'Ellul, bon, ces groupes-là, ils n'ont pas finalement assumé ce message.
Absolument pas.
Vu a posteriori, aujourd'hui.
Bon, je peux dire, il n'en est rien resté, puisque je vois mon ami Cerizet, mon ami Jean-Louis ont fait leur carrière de professeur, et quand j'ai réalisé qu'on n'avançait plus, pour moi, si vous voulez, le débat devait mener à une décision quelconque, un engagement, si vous voulez, mais disons un engagement, celui-là, personnel, de chacun, pour s'associer ensuite et voir en commun ce que l'on devait faire. Ça s'est fait très brusquement au cours d'une réunion dans un petit bistrot là des environs de Bordeaux, devant, parce que ce qu'il y avait de déplaisant, si vous voulez, c'est que ces discussions que nous patronnons, il y avait chez les membres le sentiment d'une qualité supérieure.
Ils voulaient continuer.
Ils auraient voulu continuer indéfiniment, jouant sur le tableau, si vous voulez, d'une relation personnelle qui ne sentait pas une illusion et un mensonge, mais sans prendre les engagements, la suite...
À titre personnel, voilà.
Voilà.
C'était une sorte de podium, de rencontre, de conférence.
Alors, ça s'est terminé, je me rappelle, j'étais... furieux, quoi, je dois dire, de voir qu'on n'en sortait pas. Je leur ai dit, mais vous m'emmerdez, je m'en vais, quoi. Je leur ai dit comme
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, à ce moment-là, Ellul était fatigué de ce
genre. Oui, et alors, il faut dire qu'Ellul, si vous voulez, ne pouvait pas, qui m'avait pourtant si bien soutenu, ne pouvait pas me suivre dans cette voie, parce qu'il avait encore ses illusions concernant la société et l'Église réformée. Ce n'est que par la suite qu'il s'est rendu compte que ça ne menait à rien.
Avez-vous justement, en parlant d'illusion d'Ellul, parlé longuement avec lui dans cette période de l'après-guerre, en termes de conflits éventuels, de son engagement politique qui l'a fait dans la résistance et à Bordeaux dans le MLN et à la mairie de Bordeaux, et qui a fini là aussi par devenir une illusion, comme ça le sera dans l'Église réformée plus tard?
Il a été le premier à se le dire lui-même, avec l'illusion politique.
Mais il s'est engagé, là. Oui, mais il le dit
mais
après.
C'est sûr.
Et vous ne l'aviez pas suivi, parce que...
Ah non, moi, je n'ai pas du tout suivi ce chemin. J'étais obstinément engagé sur ma voie personnelle.
Ça n'a pas duré très longtemps, cette carrière des lieux, cette engagement.
Non, bien sûr.
C'était très bref. Vous savez, il a été conseiller municipal, il s'est aperçu très vite qu'il ne pouvait rien.
Oui, c'est avant aussi les rencontres nouvelles que vous avez eues, qu'il avait fait cette expérience, Daniel.
Oui, c'est ça.
Ouais, voilà.
Ouais. D'accord. Surtout que, vous savez, être conseiller municipal à la Libération, c'est parfois vouloir dénoncer les saloperies de types qui se sont recassés dans la résistance. Alors là,
c'est lui qui a été mêlé au procès des types du radour sur Glane, non?
Oui, il a été plus ou moins mêlé, je crois, au procès terrible des types du radour sur Glane. Vous savez que c'était l'occasion, on peut dire, de se refaire une bonne conscience aux dépens des horreurs nazis. Et alors là, brusquement, le procès révèle un fait terrible, à savoir que CSS...
C'était des Alsaciens.
C'était des Alsaciens.
Et Ellul a dû être secoué.
Ah, oui.
C'était à Bordeaux, le procès.
À ce moment-là, il n'a pas été surpris, pense, parce que quand même, ça n'a pas été un type qui a cru à la résistance comme à la vérité pure et simple.
Bien sûr, bien sûr. Son cas. Bien sûr. Daniel.
Oui. En fait, donc, Jeffu n'a pas pu être publié, donc il n'a pas été édité, sauf à compte d'auteur, donc tardivement, en 80 pratiquement.
Oui, 80.
En 80. Ouais. Par contre, il y en a des versions
plus vieilles,
un peu sans mise date, qui ont circulé. Mmh. Hein, j'en ai eu des exemplaires entre les mains. Et ces premières versions, il y en avait beaucoup d'exemplaires qui ont circulé.
Oh, je ne crois pas. Non, c'est la dernière édition imprimée qui, grâce à mon ami Ellul, à peut-être d'autres amis, non ?
Jean Brun.
Jean Brun, le pasteur Rohrdorff, théologien de Genève. Quoi. Mais je me suis aperçu que c'était un bouquin très particulier parce que c'était soit, je cite le cas, Dieu sait, d'un modeste admirateur de Saint-Palais, vous savez, qui ne m'en a jamais parlé d'ailleurs, mais qui considère que c'est un grand livre. Quoi. Alors, c'est soit le grand livre, soit le zéro. Quoi. Je vois mon neveu Rémi, ex-trotskiste, maoïste et tout le tintouin, qui qualifiait, et qui est peintre, qui qualifiait mon œuvre de tableau de genre. Vous savez, parce que je décris, que voulez-vous, vous parlez de la liberté d'un homme, et bien cette liberté existante, c'est tout simplement la jeunesse, la montée vers le métier, le mariage, la décrépitude et la mort. C'était ça, le tableau de genre.
Oui, ça, et l'incompréhension sur le fond.
Ah, sur le fond, radical. Oui. Mais mon expérience, si vous voulez, c'est d'une part une expérience, je crois, profonde et irréversible d'une liberté qui est celle de l'individu que je suis d'abord, ou de l'amour, de la sympathie que je porte à un autre qui est comme moi dans sa peau. Et puis alors, l'obstacle, le fait que l'on sort. Et alors ça me ramène, si vous voulez, à l'autre, je crois, à l'autre aspect de ma pensée. Je crois que le grand problème de la liberté, bien plus qu'autrefois, ce n'est plus vis-à-vis de la nature que s'oppose la liberté humaine, mais vis-à-vis du fait social.
Voilà, justement, par rapport à la conception de la personne de Mounier, qui lui considère que la personne, c'est l'individu moi, mais aussi... j'allais dire le social qui est en lui, le moi collectif, la communauté, voire aussi pour le croyant l'Église, vous coupez l'individu de l'être social en parlant d'obstacles. Alors la question que je vous pose est la suivante. Quel est l'héritage, selon vous, j'allais dire de la pensée protestante sur l'être, sur votre pensée à vous, c'est-à-dire la résistance, l'individu? On a l'impression qu'il y a tout... Parce que quand vous parlez d'influence chrétienne, et je pense aux commentaires dans la presse de Je fus, je crois que c'est celui de un des commentaires dans
Jean Brun. La thèse de la liberté.
Oui. À la fin du commentaire, il tire vers le protestantisme, puisque c'est écrit dans un journal protestant de l'Église réformée, il tire vers une convergence de votre éthique, de votre conception de la liberté de l'individu, il le tire vers finalement le protestantisme en disant il nous rejoint ou il rejoint notre Église quasiment. Qu'est-ce que vous en pensez de...
Mais je pense y a-t-il influence que le protestantisme est composé de protestants qui sont des personnes plus ou moins conscientes d'un être, mais c'est aussi un fait social. Tout simplement parce qu'il y a une institution ecclésiastique, des théologies, si vous voulez. J'ai toujours été très critique vis-à-vis d'entreprises théologiques sur le plan spirituel. Je trouve que vouloir définir Dieu ou parler au nom de Dieu, c'est une entreprise ridicule, en particulier pour un croyant.
Bien sûr.
Si vous voulez, si c'est Dieu, vous vous rendez compte si vous avez l'air con. Alors, le fait protestant, je me reconnais une fois de plus une parenté avec l'origine chrétienne. Si vous voulez, je crois que...
On peut dire quand même, l'individualisme protestant, il y a quelque chose qui t'a marqué. Là.
Oui, mais alors c'est un individualisme qu'on pourrait retrouver même en dehors du protestantisme. Je ne suis pas compétent en matière de culture extrême-orientale, ça ne m'étonnerait pas que, venu des tréfonds de l'Homo sapiens, s'interrogeant sur le fait que la première chose, c'est qu'on existe individuellement, il n'y a rien à foutre, je suis là, une fois de plus, quand je disparaîtrai, l'univers disparaîtra avec moi, en un certain sens. Alors, je suis persuadé que, entre les protestants dans mon genre, puisqu'on me colle cette étiquette, hein, et le protestantisme fait social, il y a un abîme.
Il y a un abîme. Mais moi, je parlais d'influence, justement, personnelle, culturelle, d'idées, pas évidemment de raccrochement de votre pensée à la partie sociale et ecclésiale du protestantisme. Mais dans les valeurs fondamentales, bon, le doute vis-à-vis de l'État, l'interrogation, la nécessité de s'engager dans le monde, la nécessité de lire, d'être intellectuel et d'écrire son témoignage, la nécessité de, j'allais dire, de résister, de protester au sens fort du terme contre l'ensemble, plus en même temps l'individualisme profond et irréductible. Je me demandais, c'est une question mais personnelle aussi, pas une question où
je vous dirais
s'il n'y avait pas une
des points c'est de... une manifestation d'une famille d'esprit constamment renouvelée, aussi bien dans le catholicisme que dans le protestantisme. Qu'il s'agisse de certains mystiques, du jansénisme, que voulez-vous, ce n'est pas le monopole des protestants.
Oui. D'autant que vous rejoignez Tocqueville aussi, qui n'était pas... Bon,
Je le retrouverai chez certains libéraux, probablement.
Voilà, c'est ce que je voulais aussi.
Si vous voulez, ce qui est particulier dans ma pensée, c'est l'idée que ce qui est de l'ordre du spirituel, je dirais jusque même à la morale, au sens du social, est en contradiction avec ce que nous appelons la réalité matérielle, sociale et autres, et que précisément la liberté, ça consiste à faire passer l'un dans l'autre, et que c'est ce côté contradictoire qui donne toute sa force, sa vie et sa puissance à la liberté de chacun.
Et la révolution est d'abord spirituelle et personnelle, individuelle.
Tout se passe là d'abord. Si ça ne se passe pas là, c'est ce que je disais dans l'État. S'il n'y a pas un citoyen, il n'y aura pas de loi.
Et c'est pour ça aussi que le premier soir à table, vous disiez qu'on a une éthique individuelle, qu'il y a aussi une morale qui est un fait social, indépendant de cette éthique individuelle.
C'est-à-dire que la différence, c'est pour ça que je trouve ridicule la confusion d'éthique et la morale avec la morale, voilà, qui est à la mode.
Qui est à la mode et qui est très fréquente.
Là, on n'ose pas parler de morale. Ce qui faisait que mon ami Ellul était parfois un peu ridicule, parce que s'il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus moral que moi, parce qu'il n'avait pas les appétits, les passions qui m'animent parfois, c'était bien lui. Mais alors, comme la
théologiquement,
morale
il était
avait été la grande concurrente de la religion dans le protestantisme rationaliste et libéral du 19e, les nouvelles générations là, de Rougemont, Ellul, avait pris le parti de Karl Marx. Et voilà, je trouve ça ridicule, je dois dire.
C'est-à-dire que l'éthique se construit par la personne et la morale, elle est imposée par le groupe.
Si vous voulez, je prends le cas. D'abord, la distinction entre l'éthique et la morale est stupide, si vous allez vraiment aux sources de la morale. Ça revient à dire que la morale, ce serait une espèce de réalité suspendue en plein ciel sans origine. La morale a une origine spirituelle. Les plus grands commandements de la morale, vous ne pouvez pas dire s'ils sont éthiques. Par exemple, tu ne tueras pas.
Oui.
Tu aimeras tes ennemis, mais c'est un commandement moral. Oui. Vous vous rendez compte? Et dire que c'est une sorte d'hérésie, une erreur grave, c'est stupide.
Bien sûr.
Je crois qu'une de mes particularités, si vous voulez, c'est l'accent mis sur la valeur naturellement relative, quand elle est socialisée, de l'éthique personnelle. Mais précisément, une société n'a pas à nous dire quelle est l'éthique. La mienne, un jour, me fera peut-être violer la morale. Ça se peut, pour aider un ennemi, Le cas de la guerre juste, c'est la limite. Quoi.
Alors, il y a une autre conséquence que je retire dans ce rapport entre l'éthique individuelle et le social, et puis tout ce qui peut venir du social. Vous refusez la fusion avec le social, avec la communauté politique et sociale, faisant de l'individu, j'allais dire, un être aux ordres d'une idée, d'un groupe, d'intérêts. Pareil vis-à-vis de la nature. Vous refusez le panthéisme. Vous refusez la fusion de l'individu dans l'univers naturel, comme d'autres philosophies de l'individu, mais qui n'en sont pas.
Je crois que la fusion est le contraire de l'amour. L'amour, c'est ce qui fait aimer un autre, que ce soit la nature, une femme. C'est pareil. C'est, si vous voulez, c'est le... On peut parler... Je dirais que celui qui aime la nature, en faisant une espèce de grosse mémé avec des seins qui lui donnent du lait, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas parce que aimer, c'est aimer quelqu'un tel qu'il est. Si vous aimez quelqu'un dont vous ne partagez pas les idées, ni les mœurs, ni rien, et bien l'amour, c'est ce qui va précisément est provoqué par la différence. La plus puissante, du moins pour quelqu'un d'un bon genre, c'est le rapport avec l'autre sexe.
Oui. Mais la nature, disons, la fusion avec la nature, le panthéisme, etc., c'est pas votre pensée. Ah, ni l'hindouisme avec ses fusionnismes où l'individu est dissous dans l'univers physique, biologique et naturel.
Pour moi, c'est l'adversaire.
Voilà, voilà.
Je peux le dire très clairement. C'est ce qui m'a fait écrire, entre autres, mon bouquin sur le père Teilhard, parce que je crois que ces fusions mènent à la négation de l'individu,
à la dissolution.
Son rôle fondamental de la liberté dont il est le dépositaire.
Et oui,
je pense que, avant de revenir sur la question de la nature, est-ce qu'on pourrait essayer, parce que quand même, là, on touche... un point qui a été évoqué à propos de la morale, parler du paradoxe de la culture.
Oui, alors ça, mais je me suis, je crois, assez clairement exprimé dans mon bouquin « Paradoxe de la culture ». Si vous voulez...
Pourquoi vous avez écrit ce livre ?
J'ai pour adversaire deux fonctions sociales qui sont également tabous dans la société actuelle, c'est d'une part la science, qui est la source du pouvoir sur la réalité, et de l'autre, la culture, qui est, si vous voulez, qui a la fonction de remplir le vide que ce pouvoir dépourvu de sens crée autour de lui. Et alors, si vous voulez, la culture, le reproche que je ferai à la culture, c'est le domaine de l'illusion et du mensonge. Et en même temps, si vous voulez, de la liberté illusoire. Par exemple, moi, j'aurais pu, si vous voulez, me socialiser au titre d'écrivain. Je vois encore le Graal de Noël me dire « Mais pourquoi vous ne le faites pas en roman ?» C'est-à-dire, au lieu de vivre ma liberté, de pénétrer dans tous les minutieux détails la variété de la liberté d'un illusoire.
Du monde des signes, oui.
Illusoire. C'est, si vous voulez, la culture, mais en même temps, je sais parfaitement que cette facilité qui m'a été accordée de m'exprimer, d'écrire, qui m'impose le devoir de ne pas mentir. Je suis en contradiction complète avec la culture, et notamment la culture de mon époque, qui a pour fonction de divertir, de distraire.
De faire oublier.
De là où le progrès n'a pas encore réussi à répondre aux désirs des hommes.
Mais je voudrais dire que ce paradoxe de la culture, il a été en partie inspiré par l'expérience des milieux littéraires parisiens au début de ta carrière.
Oui, parce que...
puisque c'est le troisième livre, je crois. Il y a eu Le Père Teilhard, il y a eu Dimanche et lundi. et puis ensuite le paradoxe. Voilà. Alors là, on avait un peu plongé dans les milieux littéraires parisiens.
Oui, alors notamment avec, vous savez, là j'ai d'ailleurs mes deux amis, là, le ménage Luxoni, mon ami Mico Luxoni, qui a joué d'ailleurs un grand rôle dans l'évolution de ma pensée. Et je dois dire, c'était une amitié qui était une sorte de lutte permanente. Parce que,
pourquoi? Parce que ses positions étaient...
Mon ami Luxoni était le type de l'artiste qui croyait qu'il n'y avait qu'un moyen de s'exprimer, c'était par l'art du langage. Mais alors l'art, ce qui en même temps, tout à fait dans la ligne moderne, faisait que ce langage... C'était l'obstacle, l'ennemi qu'il fallait
briser de Blanchot, là.
Pour atteindre à l'essentiel. Alors, par intermédiaire de Ninette Luxoni, qui avait un petit côté, comme j'allais dire toutes les femmes, un côté snob, quoi, fréquentait, vous savez, tous ces milieux littéraires,
la culture parisienne.
Alors, au fond, j'ai
connu... Oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là, oui, l'influence des Luxoni, oui.
C'est du milieu, si vous voulez, par réaction...
Et qu'est-ce qu'il faisait, Luxoni? Il était professeur.
Il était prof de latin et de lettres, et puis alors surtout, il aurait voulu écrire des romans, mais son histoire est assez dramatique. C'était d'autre part un homme qui était très sensible, qui souffrait et qui avait hérité de son ascendance corse un sentiment de sa dignité terrible, vous savez. Alors, quand il estimait quand il n'estimait pas quelqu'un, vous savez, mais il le lui disait cul sec et en termes. Alors, j'aime autant vous dire que si vous voulez avancer dans le milieu. Par exemple, sa femme Ninette travaillait auprès de Bazin, l'illustre critique du cinéma, et mon ami Mico tenait Bazin pour un confiné. Il le lui a dit, certainement. Alors, le résultat, il a écrit des romans qui étaient ni meilleurs ni plus mauvais que ce qu'a fait la célébrité de Blanchot. Mais il n'a jamais pu les publier.
Les publier, oui, bien sûr. Par rapport à l'ensemble de votre pensée dans cette période des années 50-60, comment et à partir de Je fus, comment vous résumeriez, j'allais dire, votre philosophie? Bon, on a parlé de personnalisme gascon, mais c'est plutôt une figure, une image. Vous-même, en deux, trois mots ou deux, trois adjectifs, comment vous vous définissez?
Eh bien...
Existentialiste, enfin...
Je trouve que... Je l'ai dit, j'en ai fait, je crois, un aphorisme qui doit traîner dans un de mes bouquins, que la négation la plus poussée de l'existence, c'est d'en faire un existentialisme.
Oui.
Si vous voulez. De là, parce que ce qui est frappant, si vous voulez, dans le langage de Sartre, par exemple, c'est à quel point vous êtes tout de suite projeté dans le ciel des grandes abstractions philosophiques.
Loin de la vie et de l'existence sensible.
Et quand Sartre est bien contraint de redescendre sur la terre de la pensée politique, alors vous voyez, brusquement, vous passez d'une pensée tellement profonde que vous n'y comprenez plus rien, à une vulgarité d'engagement grossier, d'à peu près, vous savez. Soit c'est ma réaction vis-à-vis de la littérature moderne. Soit je ne comprends pas, soit je comprends trop, perpétuellement. Si vous voulez, parce que c'est comme dans les films de Godard. Vous vous égarez dans un univers chaotique, puis tout d'un coup il y a des fragments... sur Mao, par exemple, sur la révolution, ou sur le capitalisme, ou je ne sais pas, n'importe quoi, provisoirement reçu dans ce milieu. Alors ce sont des slogans, ça ne vaut pas plus cher.
Mais sans rechercher un slogan, je maintiens toujours ma question, est-ce que on peut caractériser, est-ce qu'on peut pas, je ne sais pas, inventer un néologisme, existentisme?
Non, ce serait me trahir, je crois, que d'ajouter un isme à ma pensée. Ce serait la trahir. Si je définis ma position, c'est un jugement porté sur l'homme que je suis et ceux qui m'entourent. L'homme est un être social qui rêve de liberté, qui est appelé à la liberté, si vous voulez. Dans un cas chrétien, qui, un individu personnel appelé à l'être par une personne divine, humaine d'ailleurs aussi.
Daniel.
Oui, sur cette question de la liberté, finalement, il y a tout un pan de votre œuvre, enfin de votre réflexion, qui est quand même, ça, bien entendu, ça la résume pas, et il y a bien d'autres aspects importants, mais un point sur lequel vous revenez souvent, et je reprends la phrase que vous venez de dire. Bon, l'homme est un être qui est appelé à la liberté, hein, mais vous avez écrit plusieurs fois aussi, mais qui ne la supporte pas.
Oui,
et ça, cette analyse que vous faites du demi-tour devant la liberté, là, il, je sais pas, moi je le retrouve aussi chez un Pascal.
Oui, bien sûr.
C'est une tradition, hein. Si vous voulez, là où je me sépare complètement de tous les libéralismes, c'est que pour moi, la liberté est un devoir, et même pire, un défi. Qui vient du plus profond de la nature humaine à rebours de sa nature matérielle et sociale. Et je crois que tout le bien des horreurs de la société moderne sont dues à une liberté mensongère qui est identifiée au contraire de cette liberté personnelle qui défie notre faiblesse.
On cherche à la contrôler en permanence du côté du social, et on parlait avec Daniel de la volonté du social d'effacer ses propres fonctionnements sociaux pour imposer quasiment, j'allais dire, une illusion à l'individu que tout ce qu'on le contraint de faire ne peut pas exister pour lui, individu libre. Alors, la puissance du social, finalement, les libéraux essaient de contrôler la liberté par des lois, par des règlements, des circulaires, des injonctions, finalement on la limite. Tandis que votre liberté, c'est l'individu seul qui va la définir pour lui-même.
Naturellement. Sitôt qu'une liberté est politiquement, socialement instituée, elle devient autre chose, elle devient un objet qui relève d'ailleurs de la critique et de l'examen de la liberté vivante de vous ou de moi. D'accord. C'est ça.
Daniel, peut-être la suite par rapport à la nature, à la pensée, oui. L'évolution de la pensée à partir de la fin des groupes bordelais vers des années début 60.
Oui, en fait, bon, il y a eu quand même tournant, alors je dirais dans l'histoire sociale de votre œuvre, hein, Bernard, ça a été quand même après 68.
Oui, c'est-à-dire que 68, si vous voulez, a parfaitement illustré ce que j'appellerais la liberté mensongère. S'il y a une formule de 68 qui m'est complètement étrangère, c'est « prenez vos désirs pour des réalités ». C'est la confusion de départ qui vous livrera à tous les mensonges, à toutes les horreurs que ça pourra prendre dans le domaine économique, politique et autres. Si vous voulez, d'ailleurs, c'est à la fin de Prométhée enchaîné où méthodiquement je fais, on peut dire sur le vif, parce que c'était au lendemain de 68, une fois de plus un texte qui n'a plus à personne, parce que ça ne pouvait pas plaire aux 68 heures, ça ne pouvait pas plaire aux autres non plus, en expliquant que mai 68 était une sorte de crise de nerfs collective dans le plus vif du matériel humain, la jeunesse, par le développement d'une société qui, invinciblement, devenait de plus en plus organisée.
Oui. Il y avait aussi beaucoup de parodies, d'imitations des vieilles révolutions, de sortes de théâtres collectifs, mises en scène par quelques poignées d'individus, qui souvent aussi parlaient au nom de ce que vous appeliez la culture, et notamment parisienne ou internationale.
Et une crise comme la crise de mai, si vous voulez, c'est une sorte de purge par laquelle l'organisme social se débarrasse dans le mime des pulsions qui pourraient le menacer.
Voilà.
Il y avait un ras-le-bol du métro boulot-dodo aussi.
Et naturellement, il y avait le ras-le-bol du métro boulot-dodo.
Ceci dit, on vous retrouve quand même deux ou trois ans après, collaborateur à la Gueule Ouverte.
Oui, parce que là, si vous voulez... Ce qui m'a fait participer au démarrage du mouvement écolo, c'est que quand même une de mes grandes questions a été d'avoir à faire prendre conscience que le progrès posait une question, la question fondamentale du rapport de l'homme et de la nature, une nature d'ailleurs qui n'est pas celle des théologiens ou même des philosophes ou des astrophysiciens, mais la Terre, notre Terre, du rapport, et c'est la question que je posais dans le chaos et le système, il n'y a pas de possibilité d'un développement infini dans un monde fini qui est une planète complexe, fragile, une misérable poussière égarée dans l'énormité de l'univers, si vous voulez. Et alors, le démarrage du mouvement écolo m'a révélé que je voyais ma pensée apparaître cette fois comme fait social. Et je me suis dit, mon devoir quand même est d'essayer. Je vais peut-être faire prendre conscience, et une fois de plus, quel échec, si vous voulez. Un fait social n'est pas une prise de conscience.
Comment s'est passée votre collaboration avec les milieux écologistes, Bernard ?
Eh bien, j'ai essayé de travailler avec eux.
Ils sont venus vous chercher ou vous êtes engagé vous-même auprès d'eux ?
C'est-à-dire que ma fille Martine avait envoyé, une fois de plus, on avait publié chez Gallimard « Mon jardin de Babylone » et une fois de plus dans l'indifférence générale. Hein. Toujours le problème, si vous voulez, je n'étais pas un naturiste, je n'étais pas un progressiste, quoi. J'avais une pensée personnelle sur cette tragédie, cette contradiction et cette dépendance de l'homme et de la nature. Hein. Alors, Martine avait envoyé le jardin de Babylone à un homme qui est, lui, historiquement, à l'origine du démarrage du mouvement écologique en France, Pierre Fournier.
Pierre Fournier.
Et c'est Fournier qui m'a fait venir pour tenir une chronique dans La Gueule Ouverte qui était financée et contrôlée par ailleurs par les maîtres de Charlie Hebdo et d'Arakiri. Ce qui fait que j'ai passé une soirée épuisante et marrante rue de la Huchette en compagnie de Cavanna, du docteur Choron, buvant, pintochant jusqu'à 5h du matin.
Oui, mais disons, Fournier était déjà mort à ce moment-là.
Quoi ?
Fournier était déjà mort.
Il était là.
Ah si, non, c'est sa femme qui était là. Non, j'ai très bonne mémoire. Fournier, nous l'avons connu dans les Alpes. Dans les Alpes, avec Prémilieu.
Avec Prémilieu.
Voilà. Et il est mort 15 jours après.
Je ne suis pas d'accord avec toi, moi, je me rappelle cette réunion.
Mais moi
parce
aussi.
Parce que c'est avec Fournier qui
tu demanderas
discutait.
Anita y était. Et
mais
elle a
c'est
d'ailleurs...
venu après, ma chère, après cette réunion de
Fournier. Non, j'y étais pas. Voilà l'explication, c'est que j'y étais pas.
Non, j'y étais pas. La réunion, tu n'y étais pas.
Ah voilà, d'accord. Donc, alors là, j'ai rien à dire.
C'était la réunion fondatrice qui a été tenue à Paris. Et alors, je me rappelle la ténacité, l'énergie avec laquelle Fournier bataillait avec
avec l'épître.
Avec les, on peut dire, les les pouvoirs
d'un Beauchard.
Oui, mais au fond, qui était tout à fait rapproché à une idéologie gauchiste classique.
Ah oui, d'accord. Tout à fait, tandis que Gilles s'en était séparé.
C'était 68 que je prolongeais sur le plan culturel, pour attirer, si vous voulez, des sous-trances telles qu'elles ne menacent personne.
Bien sûr.
Finalement. Alors, c'est pour ça que je peux en parler. Je le vois, vraiment, dans cette réunion. Tu as des moments... Tu ne les oublies jamais.
Et Pierre Fournier.
J'oublie les noms, j'oublie pas les moments. Et là, je me vois dans cette pièce, très fatigué à la fin. Tu parles en particulier le docteur Chaud-Coron, qu'est-ce qui est pantoché. Cavanna, on sentait très bien, en réalité, un arriviste, un homme de pouvoir, le patron, traitant un peu avec mépris Fournier. Et alors, un des reproches que je fais au mouvement écolo, le malheur, ça a été la mort rapide de Fournier.
En 73.
Parce que c'est lui qui est à l'origine, qui a eu ce courage et cette chance extraordinaire dans un journal gauchiste où l'on prend ses désirs pour des réalités, du moins en théorie, bien entendu,